Un rideau se tire. Un rideau se lève. La nuit crépite son vivant quand le petit matin lui dit viens, 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 viens. Éduquer, verbe transitif du latin educare. Former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. A. Préposition du latin ad, vers. Aller vers, se diriger, se mettre en mouvement dans le rythme de sa vie. Environnement, nom masculin, ce qui entoure de tous côtés, voisinage, environné, de environ, de l'ancien français viron, cercle, rond, autour de. Bienvenue dans la Drôme Nature, l'ADN, chronique drômoise de l'éducation à l'environnement. Depuis la nuit des temps, les grands accompagnent les enfants. Dehors, dedans, des parents, des animatrices, animateurs, éducatrices, éducateurs, accompagnent les plus jeunes au cœur de leurs apprentissages et leur transmettent des connaissances sur leur environnement qui leur permettent de grandir, s'épanouir et s'adapter au fil des changements. Comment éduque-t-on à l'environnement, aujourd'hui, dans la Drôme? 2000 façons, me diriez-vous, et vous auriez raison. C'est à travers le réseau drômois d'éducation à l'environnement, le RDEE, que je nous emmène découvrir ce monde local qui nous entoure. La raison d'être de ce réseau, soutenu par le Conseil départemental, est de promouvoir l'éducation à l'environnement dans le département de la Drôme. Il a pour objectif la mise en lien, la mutualisation des pratiques et des ressources, la coordination de projets et le partage d'expériences dans le champ de l'éducation à l'environnement à l'échelle départementale. Sans plus attendre, voici donc notre portrait du jour. Aujourd'hui, je nous emmène à la rencontre de Cécile et Laetitia, référentes au pôle ESE, Éducation, Santé, Environnement, de la Drôme. Elles vont nous expliquer de quoi il en retourne. Bonjour Cécile, bonjour Laetitia. Bonjour. Alors Cécile et Laetitia, merci de me recevoir aujourd'hui pour nous raconter ce qu'est l'ESE.
L'éducation à la promotion santé-environnement.
Bonjour, je m'appelle Laetitia Di Luno. Je suis chargée de projet à l'IREPS, qui est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Je suis chargée de projet en promotion de la santé. La promotion de la santé, très rapidement, qu'est-ce que c'est? En fait, déjà, ça se base sur une considération que la santé, elle est biopsychosociale, que c'est l'interaction de facteurs biologiques, physiques, de facteurs sociaux, l'insertion qu'on a, les réseaux qu'on a, et mental. C'est pour ça qu'on parle de santé biopsychosociale. Et la promotion de la santé, c'est en fait comment est-ce qu'on outille les personnes pour faire des choix éclairés par rapport à leur santé, comment est-ce qu'on leur donne du pouvoir d'agir, comment est-ce qu'on essaye de rendre accessible aussi de l'information. C'est une des dimensions, c'est pas la plus importante. Mais voilà, c'est un petit peu ça dans des démarches éducatives, participatives.
Et bonjour, donc moi c'est Cécile Petit, donc ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je gravite dans les associations et les champs de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Aujourd'hui on dit plutôt éducation à la transition écologique. Et du coup, actuellement, je travaille donc pour mon propre compte, donc Osmose, c'est une auto-entreprise. Et du coup, j'agis à la fois sur de l'éducation et de la sensibilisation à la transition écologique au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, sur différents champs. Que ce soit la sensibilisation aux enjeux climatiques, aux enjeux de notre alimentation, mais aussi finalement comment on fait écologie relationnelle, comment on interagit les uns avec les autres, comment on répond à ses propres besoins, à sa propre écologie personnelle au service des changements plus grands, des changements sociétaux. On n'est pas dans des messages, des injonctions au changement de comportement juste au niveau individuel. Hein, on ne va pas changer le monde en éteignant l'eau, en se brossant les dents. C'est plus complexe que ça, les changements de paradigme, les changements écologiques majeurs. Et du coup, eh bien, c'est comme la promotion de la santé. En EEDD aujourd'hui, on évolue pour dire que tous les changements sont écosystémiques, multifactoriels et que du coup, il faut effectivement redonner du pouvoir d'agir sur tous les champs du vivant et de notre façon d'être en interaction avec la vie, avec nous-mêmes, avec les autres et l'écologie globale, quoi.
Et une dimension qui se rattache beaucoup à ça, c'est la question des déterminants. On parle de déterminants de la santé, en promotion de la santé, c'est en gros qu'il y a les choix individuels, l'individu, mais aussi comment, en fait, lui, lui-même, il est conditionné par un environnement qui est favorable ou non. Et du coup, cet environnement, il y a l'environnement à la fois écologique, hein, bien entendu, mais aussi l'environnement sociétal, les organisations, les choix politiques, tout ça, en fait, ça, on se rend compte aujourd'hui que ça a beaucoup plus d'impact que les choix individuels, même s'il y a une interaction entre les deux. Pour faire le lien avec ce que c'est l'éducation, promotion de la santé, d'où ça vient déjà, il faut savoir qu'en fait, ça vient d'une dynamique qui a été lancée dans les années 2000 entre le GREN et l'IREPS, au niveau de la région, où en fait, le GREN, qui est un réseau d'éducation à l'environnement, et l'IREPS, du coup, l'instance régionale promotion d'éducation à l'environnement, à la santé. en fait, ils ont commencé à travailler ensemble et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de points communs et qu'en fait, dans cette approche justement des déterminants, en fait, l'approche éducation-environnement et l'approche promotion de la santé étaient totalement raccord, quoi. Et donc de ça, en fait, il y a eu à l'ARS une personne qui a été très réceptive à ça. C'est Bruno Fabre au niveau de l'ARS région. Il a vraiment été un soutien de plaidoyer en partenariat avec justement le GREN et l'IREPS et d'autres partenaires comme la DREAL. Ils ont plaidoyé pour que dans la rédaction de ce qui guide un petit peu les financements de l'ARS, on appelle ça le plan régional de santé environnement, pour que dans le troisième, qui est sorti en 2017, je crois à peu près, en fait, qu'il y ait vraiment un focus des fiches actions concrètes pour agir en éducation, promotion de la santé environnement. Et ça se traduit notamment par la création dans chaque département d'un référent binôme qui est là pour faire tout son possible, en fait, pour soutenir, accompagner,
impulser
et permettre le développement d'actions en éducation, santé, environnement. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé, nous, à faire ça avec Cécile? En fait, c'est que donc il y a eu cette dimension, cette impulsion régionale, il y a eu une formation d'une sélection par des partenaires départementaux, donc l'IREPS, nous on était là parce qu'on était rattachés à la région, mais en fait dans chaque département, côté éducation environnement, il y a des instances qui ont fait un peu ce rôle d'identification de personnes qui pouvaient faire ce travail-là, dont en fait en Drôme, le réseau Drômois d'éducation à l'environnement.
Et c'est le réseau Drômois d'éducation à l'environnement qui m'a interpellée quand je travaillais pour l'association Rhizosol, parce que justement, on a une vision globale de l'éducation à l'environnement, c'est-à-dire que notre approche n'est pas seulement éducation à l'environnement très naturaliste, mais du coup avec une vision plutôt, j'ai envie de dire politique, de l'éducation à l'environnement, parce qu'on travaillait aussi, et je continue de le faire, sur aussi tous les champs de l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, le vivre ensemble, l'environnement, voilà, en partant du principe, effectivement, une fois de plus, que les changements sont holistiques.
Mmh. coup, une fois qu'il y a eu cette identification-là, en fait, comment est-ce qu'on a, qu'est-ce que ça a comme expression concrète sur le territoire, en fait? La première, c'est juste déjà d'aller rencontrer les acteurs, tout bêtement. Quels acteurs agissent en éducation environnement, quels acteurs agissent au niveau de la santé, du social aussi, et qui pourraient potentiellement soit déjà faire des actions d'éducation santé environnement ou en faire. Et donc, du coup, pour ça, on a fait des rencontres. Et maintenant, d'année en année, on commence à avoir de plus en plus un réseau dur de personnes. Et dans ce réseau, on retrouve des acteurs comme l'ARS, qui est très investi sur le territoire. Mais aussi des personnes du RDE, des personnes du réseau de Remois d'éducation de l'environnement,
des animateurs indépendants, des EPCI, donc des intercommunalités, des mairies,
voilà. La MGEN, la Mutualité française, la Fondation Rovaltin aussi, dans le cadre qui est financé par l'ARS, par exemple, pour faire
des conférences
sur le thème de la santé environnement. Ça s'appelle ça les jeudis de la Fondation.
Et du coup, à partir de là, effectivement, on a créé un comité ESE 26, donc ESE Drôme, pour pouvoir vraiment partir des besoins du terrain, des acteurs, et voir comment on peut répondre tous ensemble à cette nécessité de renforcer le maillage des acteurs au niveau du territoire, de développer une culture commune de l'ESE. Qu'est-ce que l'ESE et comment on peut parler en multi-partenariat, comment on peut parler d'ESE, comment on peut croiser les compétences, mutualiser justement nos actions, nos projets.
Et ça prend la forme très concrète de journées de rencontres ou de formations. On avait organisé par exemple fin 2020 une formation sur les questions socialement vives, qui était très d'actualité suite au Covid. C'est toutes ces questions qui animent la société, où il n'y a pas encore de réponse stabilisée, de savoir scientifique stabilisé, mais qui sont très présentes dans le débat social et politique.
Comment on fait pour éduquer et sensibiliser à des questions socialement vives, sachant qu'il n'y a pas de consensus sur ces questions-là?
Après, on organise des journées de rencontres. C'est des journées, en fait, qu'on co-construit avec nos partenaires. Après, nous, notre but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elles puissent se réaliser. Donc, ça va de l'organisation logistique, au contenu, à la démarchage d'intervenants qui pourraient intervenir sur des sujets spécifiques.
Animation de la journée, concrètement.
Les objectifs vraiment concrets, c'est d'amorcer une dynamique territoriale en ESE, de favoriser l'interconnaissance.
Oui, c'est ça, de les outiller et vraiment de donner envie d'avancer en groupe de travail, de créer vraiment des potentialités nouvelles pour parler finalement d'une seule voix, c'est-à-dire promouvoir la santé environnement, c'est promouvoir une seule santé. Ça aussi, c'est un concept de l'ESE. Ce qui caractérise l'ESE aujourd'hui, la santé environnement, c'est différent de la santé environnementale dans le sens où la santé environnementale, c'est l'être humain au centre et on considère que l'environnement est un bienfait, enfin est au bénéfice de la santé humaine ou néfaste. Et là, la santé environnement, on part du principe que en fait, c'est le vivant qui est au centre de la santé humaine, mais aussi de la santé des autres formes de vie.
Après, il y a toujours la question aussi des financements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des choses comme les appels à manifestation de l'intérêt qui sont sortis du coup par l'ARS, d'où le fait, du plaidoyer qui vient du plaidoyer régional. Et c'est quelques petits leviers. En fait, l'idée, c'est de à la fois voir s'il n'y a pas des choses existantes, des choses sur lesquelles les gens pourraient se raccrocher, mais aussi
préparer des propositions concrètes quand il y a effectivement des leviers d'action. Et là, ça passe par le financier, par des moyens économiques. Donc, avec ce genre de journée de rencontre, eh bien, ça amorce une première réflexion et des projets sur lesquels les partenaires santé et environnement eh bien, se rejoignent, se retrouvent pour répondre concrètement à ces AMI. Voilà.
Pour être prêt à temps,
c'est ça.
Pour profiter des financements de l'Agence régionale de la santé.
C'est ça.
Pour 2022, en fait, comme on a expliqué un peu comment on fonctionnait avec cette idée de comité départemental et après on propose des actions, Là, on va voir selon les retours qu'on aura dans les prochaines réunions qu'on organise pour amorcer. Est-ce que l'année prochaine, on propose une formation sur un thème spécifique ou est-ce que, par exemple, comme thème spécifique, il peut y avoir l'éducation dehors, mais il peut y avoir aussi l'alimentation durable.
Ou là, on est aussi sur une piste, la question de l'ESE et de la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire qu'on en a parlé un petit peu là au départ, mais la dimension du changement de comportement, aujourd'hui, il faut qu'elle soit appuyée par des politiques fortes, et du coup, comment on fait pour aussi, là, à l'aube des présidentielles, comment on fait pour aussi... aborder ces questions du politique, quoi.
Et des alliés,
du coup. Et des alliés, c'est ça.
Et il y a une dimension aussi qu'on n'a pas encore évoquée, qui est importante, c'est un peu des fils conducteurs, parce qu'après, il y a les thématiques, les grosses thématiques, hein,
oui.
La gestion des déchets, la qualité de l'air, qualité de l'eau,
changement
la biodiversité,
enfin
ça, c'est un peu des grosses thématiques de la santé environnement. Et puis après, il y a des choses un peu transversales comme la mobilisation sociale, mais il y a aussi ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé, inégalités sociales au sens large aussi, qui est qu'en fait, on n'est pas égaux face à la santé, mais on n'est aussi pas égaux face au changement climatique. Aujourd'hui, on voit bien que les personnes qui polluent le plus, ce n'est pas celles à qui on demande de changer de comportement, en fait. C'est souvent aux personnes qui polluent le moins et qui sont dans des contextes difficiles, à qui on demande de s'adapter, de recycler ses déchets, de manger local et tout ça. Et en fait, en gros, ça, sur le fond, c'est pas inintéressant d'avoir des changements à ces échelles-là. Mais en fait, concrètement, les organisations sociales font que, et politiques et sociétales font que, c'est pas forcément...
C'est pas forcément efficient, efficace, en fait,
ouais.
Que de demander à des personnes qui n'ont pas les moyens, concrètement, de transformer complètement aussi leur mode de vie, en fait. C'est-à-dire qu'on pourra toujours parler à des personnes qui habitent en HLM de respecter leur environnement, mais quand on grandit dans le bitume, on peut être une fleur du bitume, hein, il faut s'accrocher quoi, pour essayer de percer le bitume. Mais il y a un moment où, effectivement, qu'est-ce qui va amener cette conscience du vivant, de la nature et l'envie de la protéger et de la respecter, c'est à partir du moment où on va pouvoir baigner un minimum dans cette nature. Donc ça, c'est au niveau politique que ça se passe, de donner les moyens, de créer des jardins ouvriers, des jardins partagés, de renaturer les espaces...
Mais ça passe aussi, et là peut-être on sort légèrement de ce que nous on peut proposer, mais ça passe aussi comment est-ce qu'on s'oppose aussi à des constructions, c'est-à-dire qu'on parlait de milieu bitume. Aujourd'hui on voit bien que les constructions, on va reparler un peu plutôt côté santé, si on prend par exemple la pollution anti-bruit, souvent les banlieues sont construites près de gros axes routiers avec une grosse circulation, et ce qui n'arrive pas dans les quartiers les plus aisés de la population. Et donc, en gros, c'est aussi cette dimension-là. En fait, dans les inégalités sociales santé, il y a aussi les dimensions, comme on disait, politiques, sur comment est-ce qu'on construit des choses à des échelons locaux, comme le fait le RDE, sur le réseau de droit d'éducation à l'environnement, sur comment on débitumise, comment est-ce qu'on revégétalise des endroits, comment est-ce qu'on prend aussi ces personnes-là pour leur faire découvrir la nature qui est existante dans les milieux urbains aussi, hein. Ouais.
Avoir animé dans beaucoup de classes des jardins, eh bien si on met en place un jardin dans les écoles et qu'il puisse vraiment produire pour les enfants, les familles, mais que la mairie n'est pas associée ou n'est pas suffisamment impliquée dans ces envies-là, eh bien le jardin meurt pendant 2 mois à l'été. Et parce que, tout simplement, il n'y a pas eu cette volonté de mobiliser des équipes en place, des équipes, des techniciens, des espaces verts, etc., pour venir arroser pendant 2 mois d'été. Donc, les enfants reviennent, et puis, super, mais nos courges et tout ce qu'on avait planté, en fait, c'est mort. Et donc, du coup, ça peut aussi vraiment... desservir l'éducation à l'environnement ou la promotion de la santé quand il n'y a pas des moyens forts autour, quoi.
Il y à la formation des élus autour des questions de santé environnement.
Avec des fiches actions qui déboulent sur des fiches actions concrètes.
C'est ça, et donc du coup, dans ce dispositif de formation des élus, en parallèle de ça, il y a aussi eu la mise en place maintenant dans chaque commune de référents sur des thématiques de santé environnementale, parce que c'est l'ARS qui pilote ça, sur par exemple l'ambroisie, les moustiques-tigres, mais c'est aussi, au moins ça permet de donner des portes d'accès où les élus en entendent parler, parce qu'en fait la problématique des élus, c'est qu'en fait...
ils sont sur tellement de
choses qu'en fait c'est là que le plaidoyer ou une forme de lobbying doit être présente pour faire montrer que ces questions-là, elles ont un intérêt.
Si on veut prendre contact avec le pôle ESE, avec vous, sur la Drôme, comment on procède ?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir qu'en lien avec la région Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un site internet Agir en ESE, agir-ese.org, où en fait, déjà, on peut trouver sur ce site tous les référents par département en Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, par rapport à ça, donc il y a nos contacts, bien entendu, dessus. Mais c'est aussi un site où les acteurs peuvent eux-mêmes se référencer dessus. Et après, il y a une carte au graphique qui s'affiche où on peut zoomer pour voir qui est où, en fait, et qui est qui aussi. Et sur ce site, il y a aussi des ressources, il y a une outil tech, il y a l'annonce des événements qu'on organise qui sont organisés sur toute la région. Enfin, c'est vraiment un site ressource pour l'éducation, promotion de la santé et environnement.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Donc on va continuer cette interconnaissance entre les acteurs ici présents. On va faire un grand cercle extérieur et un cercle intérieur. On va s'espacer à peu près tous les 2 mètres, d'accord ? Et donc on va, vous allez avoir un binôme, on va être en face à face, d'accord ? Et vous allez avoir 5 minutes par binôme pour vous présenter votre fonction dans votre structure et un projet que vous menez qui est en lien avec l'ESE ou qui pourrait évoluer vers de l'ESE. Si vous attendez le top départ...
Du coup, donc Mathieu Lefebvre, je travaille à l'ARS DD26, du coup sur la Drôme. Et je travaille vraiment, comme on est assimilé l'État, nous en financeur, on suit le binôme du coup de l'ESE et tout ce qui va être, le portage d'action un petit peu sur l'éducation, santé, environnement. Donc, on souhaite avoir vraiment la cartographie au niveau des acteurs du territoire, que ce soit aussi bien santé que environnement, et santé, environnement pour vraiment en fait bien cibler tous ces partenariats-là. On voit que ce genre de journée du coup organisée est un des gros buts pour essayer de fédérer une dynamique locale. Et vraiment, en fait, par ces journées-là, on arrive à étendre le réseau. Et c'est vraiment de mettre en place ce réseau-là pour promouvoir tout ce qui sera les actions. Bon, santé, un peu plus santé pour ce qui est d'un point de vue ARS, mais environnement, parce que du coup, c'est le lien des deux.
Donc, vous avez le nombre de passagers en avion qui est passé de 330 millions par an en 1970 à plus de 4 milliards en 2019. Ça, c'est pour les humains. Et pour le bétail, on estime que le budget des mouvements de bétail est passé de moins de 2 milliards dans les années 70 à plus de 18 milliards en 2017. Donc, c'est quelques chiffres pour avoir une idée de quand même de à quel point notre monde s'est globalisé très rapidement. Alors, je vais passer à la deuxième grande partie qui porte donc sur l'anthropocène. Le terme anthropocène signifie en fait l'ère de l'humain, littéralement, et c'est utilisé pour désigner une nouvelle époque géologique qui aurait débuté à la fin du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle qui succéderait ainsi à l'Holocène. Et c'est une notion qui a été proposée dans les années 2000 par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen. Pour lui, il justifiait en disant que l'humanité était devenue si abondante et active qu'elle rivalise désormais avec les grandes forces de la nature en termes d'impact sur le fonctionnement du système Terre. Il faut savoir que c'est une notion qui n'est pas acceptée unanimement chez les scientifiques. Alors, quels sont les grands facteurs de cet anthropocène, de cette action de l'humain sur l'environnement ? Je vais en citer quelques-uns. Un qui est très important, c'est le changement d'usage des terres, donc que ce soit l'urbanisation ou la déforestation. Et on sait que ça a un effet très important, et je vais y revenir juste après. Ici, vous avez, donc j'ai remis ce graphique avec en haut le nombre de zoonoses, d'épidémies zoonotiques au cours des années, donc avec un zoom depuis les années 90. Et vous voyez, au cours de la même période, j'ai représenté la diminution de la couverture forestière dans le monde, et puis en parallèle, l'augmentation de la production d'huile de palme. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une association positive entre le nombre d'épidémies et l'augmentation des surfaces converties en plantations en palmiers à huile. Alors, je vais illustrer un peu comment tout ceci peut interagir au travers d'un exemple, qui est le virus Nipah. Alors, le virus Nipah, il faut savoir qu'en septembre 1998, on a une étrange épidémie qui se déclare dans des élevages de cochons en Malaisie péninsulaire. Donc, de nombreux animaux présentent des signes infectieux. Et peu après, les éleveurs contractent à leur tour des fièvres hémorragiques sévères. Donc l'épidémie se propage ensuite aux abattoirs de Singapour avec des porcins qui sont importés des régions malaisiennes et qui sont atteints par cette maladie. Et donc les enquêtes épidémiologiques démontrent le rôle des chauves-souris, là encore, des roussettes frugivores, comme réservoir de l'agent infectieux, le virus Nipah. Donc, cette crise sanitaire se solde par le décès de 105 personnes sur les 265 infectées par le virus. Et on a plus d'un million de cochons qui seront abattus. Alors, ce que ça reflète quand même, c'est que comment peut-on expliquer que des virus hébergés chez des chauves-souris frugivores aient pu rencontrer des cochons élevés dans des conditions semi-industrielles dans un pays où la population à grande majorité musulmane n'est pas consommatrice de cet animal? Alors, on va reprendre le contexte. Donc, il faut savoir qu'en cette année 98, la grande île de Bornéo souffre de nombreux feux de forêt d'origine anthropique. Ces feux de forêt sont favorisés par une exceptionnelle sécheresse en raison d'un fort El Niño, donc il y a un événement qui est issu de la variabilité climatique, donc, et elle subit également une importante déforestation pour faire face aux plantations de palmiers à huile. Les feux sont donc volontairement entretenus pour accroître l'emprise des plantations sur la forêt. Face à la réduction de leur territoire et en raison des fumées des feux, les roussettes, donc les chauves-souris, doivent partir à la recherche de nouvelles zones d'alimentation et de repos. Et elles vont trouver ces zones dans les plantations malaisiennes d'arbres fruitiers qui recouvrent les élevages de porcins à destination du marché asiatique. On est dans l'ère de la mondialisation. Et donc, ce que cet exemple montre, c'est pour vous montrer la complexité des choses, mais quand même comment l'humain peut influer énormément sur son propre destin, en quelque sorte, c'est que la conversion de forêts tropicales de Bornéo en plantation de palmiers à huile pour le marché international permet la mise en contact des chauves-souris avec des porcins destinés eux aussi au marché international, ces chauves-souris qui ont transmis leur virus aux humains via les cochons en raison de l'altération de leur habitat originel et de la nouvelle cohabitation avec les productions agricoles et animales. Donc, je trouve que cet exemple est vraiment très parlant.
L'objectif de cet atelier,
c'est les points marquants pour nous dans la matinée et le lien qu'on peut faire avec notre pratique professionnelle.
En même temps, c'est une force que ce soit des sujets multisectoriels en fait, qui amènent des références au niveau de l'environnement, de la santé, de l'économie, de notre société de consommation, etc. Parce que je pense que du coup, beaucoup de personnes peuvent être touchées et peuvent leur raccorder justement à des aspects de leur vie, des aspects de leur profession.
C'est ce qu'on appelle aussi la littératie en santé. Voilà. C'est-à-dire qu'on, nous, à ARS, voilà, on va donner au ministère de la Santé, va donner des recommandations sanitaires. Et on voit que les campagnes, pourquoi les campagnes de communication sont mal comprises, parce que même par rapport au Covid, hein, par rapport à notre angle d'approche individuel, comportement de vie, parfois c'est difficile de prendre en compte d'un point de vue culturel aussi, par rapport aux populations étrangères, etc., de mettre en place le changement de comportement ou les recommandations sanitaires. Donc c'est ce qu'on appelle, voilà, comment faire mieux comprendre et que chacun se l'approprie pour l'intégrer à son mode de vie, à son mode de, à ses priorités. Hein.
Si tu vas en haut, tu fais fresque du climat plus un an qu'on a vu par caverne, c'est les deux.
Bon, en fait, j'ai déjà fait la fresque du climat, donc c'est un peu dommage.
Je peux venir là. Et après, par contre, l'animation qui suit, ce sera la théorie du donut, du coup.
Oui.
Avec Aurélie Fallin.
Ça, je sais que je suis inscrite là-dedans.
Bah voilà, bah écoute, bienvenue.
En fait, c'est par rapport à la campagne qui a été évoquée par l'ARS ce matin. Du coup, moi, ce que je voulais vous proposer sur cet atelier, c'était, comme c'est une nouvelle campagne, c'est qu'on découvre ensemble un petit peu qu'est-ce que c'est, les différentes affiches et ce qu'on trouve sur l'espace Internet. Et après, je voudrais vous proposer un petit temps déjà prendre connaissance un petit peu de ces visuels-là, ce que vous en pensez, en temps individuel d'abord, de voir un peu ce qu'on en pense. Après, on partage ça. Et à la fin, en collectif, on pourra un petit peu voir comment on se voit, nous, réutiliser cette campagne, qu'est-ce qu'on trouve bien, comment on pourrait s'en resservir ou non.
Well, pick me up with golden hand. Oh, me say, oh, me tell you to run.
Oh, boy. Oh, boy.
I'm over to see, I'm over to young. Well, I would like to hold my little hand. I will bell cry with. I will bell cry. reach out my hand. Oh, me say, oh, me tell you to run. On my way, on my way. Mommy say, mommy yeah.
C'était l'ADN, émission pour le réseau Dromois d'éducation à l'environnement, par Magali Gray.